Donc, alors, vous avez... On en a mis deux, c'est pas pour semer le trouble, mais on a deux... Quand on a édité le fascicule, on n'avait que les données qui allaient jusqu'à 2016. Donc on avait pris la totalité de la durée de notre plan climat, commencé en 2012 avec les données de 2016, et entre l'impression du document, je vous rappelle qu'il a été imprimé en très peu d'exemplaires, parce qu'il sera diffusé essentiellement de manière numérique, il faut être exemplaire, on a eu des nouveaux chiffres. Donc ça permet d'avoir un calage 2014-2017 qui correspond à la période d'évaluation du plan climat. Donc vous voyez que sur les consommations énergétiques, on a une variation intéressante, sensible, pas phénoménale, certes, mais quand on sait qu'il y a de plus en plus de véhicules, par exemple, en termes de consommation, il y a un accroissement, donc forcément il y a des besoins nouveaux, et malgré cela, il y a une diminution. C'est plus sensible sur l'émission des particules fines, voilà, et également sur les émissions directes hors biomasse, puisque la biomasse, c'est un stockage qui est relibéré après. Voilà, donc là, on est sur des conséquences, des avancées importantes. Bien, voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Si vous
voilà,
avez
merci
des questions ou des remarques.
Merci beaucoup, Guy. Je pense qu'il s'agit là vraiment d'un condensé d'actions tous azimuts et qui témoigne aussi d'une volonté très forte d'agir à notre niveau pour nous organiser en direction de la transition énergétique et d'adapter notre territoire aux exigences du changement climatique. Donc je crois que c'est un effort partagé, un effort évidemment pluriel, multiple, et que je voudrais en particulier à cet instant, en remerciant Guy, remercier aussi nos services, et l'ensemble des services, parce que ce qu'il a évoqué tout à l'heure avec M2D2, j'en suis témoin, et je peux vous dire qu'il y a une motivation considérable de l'ensemble des agents de Metz Métropole qui montre aussi le chemin, parce qu'il s'agit pour nous, évidemment, à tous les niveaux de notre maison, et quelles que soient nos responsabilités, eh bien, de montrer la bonne direction en matière de climat et donc d'énergie territoriale. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce plan climat air énergie? Alors, Monsieur Lebeau, Madame Kosik, Monsieur Lebeau, vous avez la parole. Et ensuite, Monsieur Belada, je n'ai pas vu.
Monsieur Bonidier.
Ah, pardon. Bon, je vais attendre alors. Tout le monde est là. Voilà, Belada. D'accord. Bonidier. OK. Monsieur Lebeau, vous avez le micro.
J'attendais que vous finissiez de parler, Monsieur le
Merci.
Président. Alors, avant toute chose, je tiens à saluer le travail qui a été fait par les services, par le vice-président et par la gouvernance sur ce plan climat-énergie. Mon propos aura pour but, il faut le prendre comme des pistes de réflexion, d'amélioration. Ne prenez pas ça comme une critique, bien au contraire. Mais ça nous permettra de nous projeter par rapport à la prochaine mandature. Parce que là-dedans, on voit tout ce qui a été fait de positif. On pourrait voir, là c'est le verre à moitié rempli, maintenant je vais parler du verre à moitié vide. Dans le verre à moitié vide, il y a, et c'est pas moi qui le dis, c'est le référent développement durable de Metz, qui n'est autre que l'adjoint au maire au développement durable, M. Darbois, qui dit dans la presse, et le répète, que nous avons saboté 60 hectares. C'est-à-dire, pourquoi il dit ça? Parce qu'on a créé des îlots de chaleur urbains, alors que le plan climat-énergie a pour but de lutter contre. La prochaine fois qu'on devra urbaniser et que l'on prétend faire un éco-quartier sur les coteaux de la Seille, il faudra peut-être être plus exigeant avec les promoteurs, beaucoup plus exigeant, et peut-être avoir un peu plus d'audace. Il y a aussi un dossier qui me tient à cœur, qui est le choix de notre future maison commune, qui est le bâtiment Centralia. Deux gros reproches. Premier reproche, ce bâtiment est construit sur une norme qui est dépassée le jour où nous habiterons cette maison commune. puisqu'il est fait sur une base RT 2012 et que nous entrerons au mieux en 2020. Et donc, on aurait pu exiger que ce bâtiment soit la référence en RT 2020, sachant que nous avons vécu, et un des arguments qui est de dire qui a été vers cette construction, c'est que notre siège actuel, notre maison commune actuelle, est de dire que c'est une passoire énergétique. Mais quand elle a été faite, cette maison commune, quand elle a été faite, elle était aux normes. Donc, je pense que dans 8 ans, nous aurons, ou nos successeurs auront, la même problématique en disant « Mais comment on a pu laisser construire un bâtiment sur une norme dépassée ?» C'est tout ce que je dis. Deuxième élément sur ce bâtiment, c'est que un des points très positifs du début de mandat, de notre mandature de 2008, ça a été de faire le pôle multimodal à l'arrière de la gare, qui était quelque chose d'extraordinaire, qui a facilité la vie aux gens, mais vraiment facilité. On circulait, c'était audacieux, c'était intelligent, c'était visionnaire. Et qu'est-ce qu'on a fait ? C'était tellement bien qu'on l'a arrêté. Et est-ce que cela va dans le sens du plan climat, air, énergie ? Je ne le pense pas. L'autre élément, mais ça c'est juste anecdotique, monsieur le président, et c'est juste que, visiblement, j'ai lu que le G7 avait consommé 500 tonnes de CO2. Alors que l'économie que réalise le Métis en un an, c'est 370 tonnes. Donc il faudra un an et demi de transport Métis pour économiser l'arrivée du G7. L'autre élément que je regrette, c'est le choix des bus 3 caisses hybrides mais au gasoil. 54 litres de gasoil. Tout le monde sait, tout le monde lit que le gasoil est cancérogène. Je pense qu'on a été trop vite dans le déploiement du Métis. Ça, c'est mon avis. Et qu'on aurait dû prendre vos deux mandatures, monsieur le président, pour pouvoir le faire, et peut-être qu'on aurait abouti à un transport électrique. Et quand je vois les réflexions de la commission transport et d'autres personnes qui disent « Ah là là, l'électrique, mais c'est encore plus polluant que gasoil !» Alors là, on peut tout pas arriver à tout, les panneaux photovoltaïques sont peut-être encore plus polluants et vivent les usines à charbon pour en y est, mais je pense pas que ça aille dans l'air du temps. Et enfin, une dernière réflexion sur le plan climat-énergie, une dernière piste de réflexion. C'est que si on veut vraiment agir pour le climat, il faut agir vers la réduction de la précarité énergétique et faire en sorte que les logements, qu'on ait une vraie politique énergétique au niveau des logements, qu'on soit beaucoup plus audacieux. Et je pense que là, sur la prochaine mandature, il faudra déployer des moyens pour faire en sorte que si l'on veut agir pour réduire notre consommation d'énergie, il faudra agir de manière plus visible sur la précarité énergétique au niveau des logements. Je vous remercie, monsieur le président.
Merci, madame Kosik.
Oui, monsieur le président, alors il faut agir, mais il faut surtout dire pour faire quoi et comment. Moi, je voulais revenir sur un des axes considérés d'ailleurs dans le très bon document qui nous a été présenté comme un enjeu social, environnemental et économique. Je veux parler bien sûr de la rénovation thermique des logements. C'est bien sûr un enjeu que nous partageons, Guy Berger l'a dit, dans le cadre du PLH, et nous l'avons identifié comme une des orientations prioritaires. Simplement, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment tendre vers la massification de cet objectif. Alors, on a, à l'échelle de la métropole, deux outils. Nous avons l'ALEC, hein, l'Agence locale de l'énergie, qui accompagne chaque jour des citoyens métropolitains, je crois que c'est à peu près 800 par an, à travers notamment son espace info énergie. Et puis, nous avons les opérations programmées d'amélioration de l'habitat qui sont développées dans le cadre du programme local pour l'habitat et qui, bon an, mal an, touchent à peu près 150 logements par an dans le parc privé. Alors, c'est bien sûr extrêmement utile, mais c'est largement insuffisant, on le sait bien. On le sait et c'est là-dessus qu'il faut faire porter, je crois, notre soutien, tant au niveau de cette information qui existe au niveau de la LEC, qu'au niveau des programmes d'intervention. Alors, comment faire? Je crois qu'il faut impérativement renégocier, notamment avec les partenaires de l'État, et je pense évidemment à l'ANA, qui est le partenaire financeur de ces opérations de réhabilitation, pour que de nouveaux programmes puissent être mis en œuvre. Aujourd'hui, les programmes que nous avons sont en effet des programmes qui sont ciblés vers des propriétaires occupants modestes. Alors bien évidemment, c'est une priorité, mais il faut aussi pouvoir aider les propriétaires des classes moyennes qui parfois n'ont pas forcément les moyens d'agir sur les questions de précarité. Je crois que c'est important de nouer des partenariats. Je pense évidemment à la Banque des Territoires, je pense aussi au 1% logement. Je pense, Monsieur le Président, qu'il faut que la métropole prenne ses initiatives. Nos concitoyens viennent de nous envoyer un message important en faisant de l'écologie un enjeu majeur, la troisième force politique aujourd'hui en France. Et je crois que nous avons des réponses à leur apporter.
Voilà, merci Monsieur Belhadad. Monsieur Gros Didier, ensuite Monsieur Gros qui a demandé la parole aussi.
Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je voudrais profiter de cette occasion pour intervenir à la fois sur ce point-ci et sur le point 5 qui concerne le plan de déplacement. Remercier l'intervention complète de notre collègue Guy Berger sur la présentation de ce PCET, car il est vrai que peu de PCET, enfin beaucoup de PCET ont été signés par obligation il y a plusieurs années, mais peu d'entre eux ont trouvé des concrétisations à travers différents projets. Donc c'est important de pouvoir faire le point à mi-chemin. Mon intervention va être à la fois politique et opérationnelle. Le modèle métropolitain dans lequel on s'est engagé depuis maintenant peu, est un modèle qui fait à la fois digue face aux dérives politiques, parce qu'elle est à la fois, il est intégrateur et il est réfléchi. Et la politique menée actuellement par la majorité fait aussi digue, puisque les priorités de l'agenda sont les mêmes que celles de Metz Métropole. La loi d'orientation sur les mobilités qui va arriver dans quelques jours, la loi relative à l'énergie et au climat d'ici mi-juin, la feuille sur l'économie circulaire, ça a été évoqué tout à l'heure par Guy à travers la mise en place d'une démarche d'écologie territoriale et industrielle, et puis le règlement intérieur de l'Assemblée pour laisser plus de temps à l'interaction et à l'expression de tous. Donc les enjeux à la fois de mobilité, d'énergie et de climat, et enfin d'enjeux démocratiques, on est là au cœur du message politique porté par les Français à travers le scrutin d'hier. Et au sein de ce PCET, avec un travail important mené depuis 2015, je retiens notamment plusieurs axes de progrès, notamment la valorisation des certificats d'énergie, le développement du covoiturage, la systématisation environnementale de nos marchés publics ou la logistique urbaine, et on sait la difficulté de la livraison du dernier kilomètre. D'autres mesures directement issues des lois que j'ai citées à l'instant viendront enrichir notre politique qui n'a pas été intégrée encore, comme les zones à faible émission à effet de serre ou les obligations en matière de stationnement des vélos ou le recours aux énergies alternatives. C'est dans ce double contexte que j'ai souhaité que tous mes collègues parlementaires, membres de la délégation de développement durable, viennent à Metz lors du G7. Alors notre métropole est armée pour les relever, mais notre territoire l'est-il tout autant? Pouvons-nous définir des modèles vertueux à l'intérieur de nos frontières et ne pas travailler les extensions, les coutures, la portée sur les agglomérations au nord, qui s'enferment inexorablement dans un vote de plus en plus contestataire. L'analyse des résultats électoraux d'hier est à cet égard saisissante, notamment dans les principales villes de ma circonscription. Dans les domaines qui nous préoccupent, le Parlement est en train de prendre ses responsabilités, notamment par l'obligation faite aux EPCI d'endosser une compétence d'autorité organisatrice des mobilités. Mais le message que je veux porter ce soir est à la fois, comme je le disais en préambule, opérationnel et politique. Opérationnel parce qu'il appartient à notre métropole d'être de plus en plus active contre le réchauffement de la planète, des dérèglements climatiques, des enjeux sociaux et démocratiques qui les accompagnent, mais aussi politique. Il appartient à notre métropole de construire un espace politique apaisé et constructif qui, à mon sens, doit largement dépasser nos frontières actuelles. Merci.